Eh bien bonsoir, merci d'être là ce soir pour cette séance du cycle Corps filmé qui a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc j'ai le plaisir de projeter ce soir le film d'Ebony Brisavoine qui est donc là pour nous ce soir. Elle a beaucoup voyagé pour ce film. Ce film est sorti en salle en décembre, a fait beaucoup d'entrées, presque plus de 10 000. Mais c'était bien je crois de le voir encore aujourd'hui puisque voilà, je vois qu'il y a encore plein de gens qui ne l'avaient pas vu. Donc après le film, il y aura une rencontre avec Émilie, animée par Cédric Malle. Voilà, Émilie. Vous...
Bonsoir, merci d'être là. Et bonne soirée, bonne projo. Vous avez passé la soirée avec ma famille. Donc on se revoit tout à l'heure.
Voilà, donc bon film et à tout à l'heure.
Bonsoir, merci de votre présence. Moi je m'appelle Cédric Malle, J'ai fondé et j'anime un site internet qui parle exclusivement de documentaires et qui s'appelle le blog documentaire. Et j'ai le privilège de poser les premières questions à Émilie ce soir. Et la première qui vient à l'esprit en regardant même les premières minutes du film, c'est pourquoi avez-vous décidé de filmer votre famille ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ?
Je sais pas. Non. Enfin, sur le coup, je savais pas trop, en fait. Peut-être j'explique directement que j'ai pas fait d'études de cinéma. J'étais pas du tout amenée à faire une carrière cinématographique où je savais même pas comment on faisait un film. Mais on m'a prêté une caméra. Parce que moi, j'ai fait des études d'art appliqué. Donc, je faisais plutôt du dessin ou j'étais plutôt plasticienne. Et on m'a prêté une caméra. Et je me suis mis à filmer ce que j'avais sous la main. Et qui me happait, et qui m'intéressait. Un peu comme mon papy, quand j'étais petite, qui n'arrêtait pas de nous filmer avec son caméscope. En fait, je pense qu'on... Enfin, j'imagine vous aimez filmer vos enfants, votre famille, parce que voilà, c'est des gens que vous aimez. Et c'était une période où Pauline était en pleine... en transition, quoi. C'est-à-dire que je la voyais devenir la petite fille que... Enfin, voilà, que j'avais vu naître, devenait une femme. Et en même temps, moi, je l'adore, quoi. Je la trouve super. Et donc j'ai commencé à la filmer. Et comme elle traversait une période difficile, c'était aussi une manière pour moi de faire quelque chose avec elle, quoi, de l'accompagner. Parce que à cet âge-là, on est plutôt avec ses potes, on reste pas trop avec la famille ou les plus grands, quoi. Et donc c'était en fait le fait d'avoir une caméra, c'était histoire de partager une expérience ensemble. Et au début je l'ai filmé comme ça, puis même moi en fait j'ai découvert l'acte de filmer, c'est-à-dire comment tout d'un coup on cadre dans le réel, comment on cale les choses, comment des choses apparaissent comme des réactions presque chimiques, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont l'air totalement anodines qui tout d'un coup prennent une ampleur ou une aura, et d'autres qui ont l'air, on se dit ah, ça va être super, en fait c'est totalement insipide. Et donc qu'est-ce que c'est que de cadrer, c'est quoi la distance, voilà, toutes ces questions là et je me suis mis à filmer. Enfin, j'ai été assez happée par l'acte de filmer qui fait que à la fois on est vraiment dans le présent, parce que rarement on est tout le temps en train de penser à autre chose, je sais pas, faire du Facebook ou penser à demain ou à hier. Et là, d'un coup, on est vraiment dans le présent, on est vraiment dans le réel, et on capture ces moments-là, et en même temps, on prend de la distance. Donc c'est aussi à la fois, c'est quelque chose qui intensifie l'existence et en même temps qui la met à distance.
Mais, alors, parce que moi, personnellement, je prends des photos de ma famille, je filme ma famille, ouais. Mais j'interdis toute diffusion sur les réseaux sociaux, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit que ces images privées, ouais, il faut que je les rende publiques? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit je vais en faire un récit cinématographique?
Ouais. Ben ça, en fait, c'est une discussion que j'avais avec un ami qui fait du cinéma. Je lui parlais des heures de rush, parce que j'avais des dizaines d'heures de rush, genre 60 heures de rush. Et il me disait, mais t'as vraiment de quoi faire un film, quoi. Parce que j'ai quand même la chance d'avoir une famille, c'est des vrais personnages. D'ailleurs, il y a mon beau-père Fred et Maud, ma mère, qui sont là, si vous voulez venir. Qui sont des vrais personnages de bande dessinée, quoi. Enfin, ou qui sont des... enfin, en tout cas, qui sont... Je veux dire, si j'étais scénariste et que j'écrivais des personnages comme ça, ça, on me dirait, c'est too much, quoi. C'est bigger than life. Et donc, j'ai quand même cette chance-là. Et puis, ma famille a beaucoup de ressources, on va dire, mélodramatiques. Il y a tout le temps des événements, des rebondissements. Et du coup, j'avais vraiment matière à créer du récit, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, en fait, tout s'est vraiment fait à la fois par hasard et aussi par nécessité. Parce que souvent, le hasard fait bien les choses. Mais c'est vrai que j'avais besoin de filmer ma famille. C'était aussi une manière d'être là. Et à un moment, cet ami m'a dit, mais si tu veux, je te présente à mon ami producteur. Je lui ai envoyé une sélection de rush. Et donc, il a été partant. Et donc là, il a fallu que je mette au clair mes intentions, parce que pour le moment, rien n'était vraiment clair, si ce n'est que je prenais plaisir et j'avais envie de faire ça, quoi. Donc là, c'était assez complexe.
Et du coup, comment on s'en débrouille, la solution, enfin, de manière évidente, c'est on se dit, ah bah tiens, elle va nous raconter un conte de fées. C'est ça qui s'est imposé?
Non, pas du tout.
Assez vite, ou comment ça s'est passé?
Non, en fait,
pour raconter une histoire à partir de cet amas de rush.
Le conte de fées, c'est plutôt arrivé aux deux tiers du montage. C'est-à-dire qu'au début, déjà, moi, je suis allée voir ma famille pour leur montrer les rushs et leur expliquer mes intentions que j'avais un peu clarifiées. C'est-à-dire que moi, je voulais faire un film qui soit un film de cinéma, qui soit pas un film hagiographique, qui soit pas un film d'horreur, qui soit pas de la télé-réalité, qui soit pas. C'est-à-dire que c'est un film qui montre la complexité de la vie, quoi. Et à quel point la vie, elle est très riche, ambivalente, et je voulais un film qui soit à la fois où il y ait des moments sombres, qu'il y ait des moments drôles, où il y ait des moments poétiques, qu'il y ait des moments totalement, mais banals à mourir, qu'il y ait des moments où... Enfin, voilà, comme dans la vie, quoi, que ça soit... Enfin, voilà, immense comme la vie, quoi. Très vivant. Et donc, j'ai montré à ma famille une sélection de rush qui montrait, justement, la pluralité de ces scènes, quoi. Et à partir de là, c'était un petit peu, pour moi, l'enjeu, c'était de montrer... moi, ce dont j'avais envie, c'était de montrer une émancipation. Puisque c'est un petit peu ce qui m'intéresse, c'est voir comment on surmonte ces démons, quoi. Et donc, au bout des, je dirais... parce que je me suis retrouvée avec 100 heures de rush. Sauf qu'il fallait pas que je voie ma mère, ma sœur, il fallait que je voie des personnages de cinéma. Qui racontent une histoire. Donc il faut les construire comme des personnages de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va accentuer, des choses qu'on va omettre. À partir de là, comme j'avais une matière qui était très foisonnante, avec beaucoup... Enfin, moi, j'étais en mode... J'ai filmé vraiment en mode amateur. C'est-à-dire que dès que j'avais besoin, j'appelais quelqu'un, un ami, je savais qu'il avait une caméra, il me prêtait. Ce qui fait qu'il y a 8 caméras différentes. Il y a des formats 16/9, 4 tiers. Il y a de l'HDV, il y a de la mini-DV, il y a de la VHS, il y a de l'iPhone, il y a des dessins.
C'est un peu punk comme...
Ouais, voilà, c'est un peu punk, ouais. Voilà, tout était très foisonnant, il y avait beaucoup d'histoires possibles, donc il fallait qu'on ait une trajectoire qui soit très simple et efficace. Et moi, à ce moment-là, j'ai relu Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, et justement, lui, il parle des contes de fées. Nous, on connaît les contes de fées un petit peu comme ceux qu'on a lus de Perrault ou alors Disney. Mais il faut savoir qu'à la base, le conte de fées, c'était des récits oraux qui étaient beaucoup plus cruels et trash que ce qui a été édulcoré après par Perrault. Parce que justement, pour la bienséance de la cour, il a été obligé de rendre ça un peu plus propre. Et encore plus édulcoré après par Disney. Mais à la base, un conte, ça sert à quoi? C'est à initier les enfants à la dureté du monde. Donc, en gros, un conte, c'est qu'on a une situation problématique au départ. Donc là, c'est Pauline qui entretient des rapports explosifs avec son entourage. Et comment, à un point de rupture, bon là, pour le coup, c'est la rupture avec son copain, elle en vient à surmonter ses démons, quoi. C'est-à-dire que là, ça passe par une introspection intérieure et que nous, on a traduit, on a pris des libertés, on va dire, cinématographiques plus expérimentales, pour montrer son monde intérieur, et en même temps ce qui passe aussi par la parole, parce qu'au fur et à mesure que je filmais Pauline, parce que je la filmais pas tous les jours, je la filmais épisodiquement de temps en temps, parfois 2 jours d'affilée, parfois pas du tout pendant 3 mois, mais je l'ai filmée pendant 3-4 ans. Et en fait, au fur et à mesure, Pauline s'est emparée aussi de la caméra comme d'un mode d'expression, comme une espèce de parenthèse finalement. Qui est hors conflit finalement, où elle peut poser les choses, laisser une trace, et c'est devenu une manière pour elle de mettre des mots, et avec une dimension effectivement cathartique, quoi. C'est devenu un peu un rendez-vous, comme une trêve, une parenthèse dans sa vie, et d'ailleurs on le voit, on l'a gardé vraiment dans la continuité du montage, quoi.
Et alors d'ailleurs, il y a deux manières de rebondir. La première, avec vous, la deuxième avec vous. À un certain moment dans le film, on se demande à qui la caméra est le plus profitable. Est-ce que c'est à vous qui faites un film ou est-ce que c'est à Pauline ? En fait, on se demande presque, mais qui est le metteur en scène ? Est-ce que c'est vous, vraiment ? Ou est-ce que c'est Pauline qui se joue de la caméra pour... Enfin, et qui cède de la caméra pour grandir, finalement, simplement.
En fait, c'est moi, quand j'ai filmé de manière assez innocente, dans le sens que je pensais pas faire un film, parce que si je voulais faire un film, j'aurais pas fait ça comme ça. Parce qu'en fait, si j'étais venue avec ma caméra en disant à ma famille, allez, je vais faire un film, il n'y aurait pas eu de film. Et moi-même, j'aurais pas fait... Enfin, moi, déjà, ça me serait pas venu à l'esprit de faire un film. Et puis, personne n'aurait été naturel, en fait. Finalement, c'était destiné à être des archives familiales. Moi, j'ai eu l'opportunité, à un moment, de trouver un producteur qui m'a dit, on va faire un film. J'ai fait, bon, super, j'ai plein de potes qui font du cinéma. Ils se démènent pendant des années à faire un film. Après, on fait une projo, et puis on n'entend plus parler. Donc, je me suis dit, super, bon, ça va faire pareil. Et puis, au moins, j'aurais fait un film, j'aurais appris quelque chose. Et puis, donc là où ce qui a été assez étonnant, c'est que, en fait, comme le film a été sélectionné à la CID à Cannes, ben, il a vraiment gagné en visibilité et il est sorti en salle. Mais ça, personne ne s'y attendait, quoi. Et moi, quand. Il n'y a pas de mise en scène, en fait, dans le film. La seule chose qui est mise en scène, c'est qu'à un moment, j'ai filmé les personnes en train de regarder les rushs parce que, justement, quand j'ai trouvé un producteur, il a fallu que je leur demande leur autorisation à l'image. Et donc, je leur ai montré les rushs. Et c'est la seule chose que moi j'ai sollicité. Et donc finalement, ce film, c'est un film de montage. Tout est mis en scène par le montage.
Et alors, rebondissons, deuxième rebond. On parlait de la nécessité de construire des personnages de cinéma. Est-ce que vous vous êtes vu en personnage de cinéma là, ou est-ce que vous vous êtes vu de manière telle que vous êtes? Et s'agissant de cette scène, une des trois ou quatre scènes, séquences enfin, fortes du film, où vous voyez, vous, à l'image, vous ne faites qu'une remarque sur votre voix.
Oui, je fais une remarque sur ma voix. C'est pas... Je pense que j'avais tellement d'autres choses que j'aurais voulu dire et que je n'ai pas dit. Mais en même temps, je voyais pas d'image, je voyais un écran noir. Donc j'entendais juste ma voix. Donc c'était pas spécialement facile de prendre le recul. En plus, bon, s'entendre crier, s'entendre insulter, c'est toujours pas évident. Le film, en tout cas, c'est clair que le fait de se voir à l'écran, de voir sa famille, c'est complètement magique. Si un jour vous avez cette chance-là, vous verrez, c'est un truc extraordinaire à vivre. Parce que... On n'est pas resté uniquement assis dans une salle de cinéma, on a bougé, on est parti à Cannes, on est allé à la radio, on a fait des émissions de radio, on a discuté avec des journalistes. On a Pauline qui s'est réellement arrachée depuis quelques mois de la maison, qui a décidé de vivre sa vie pleinement et de se rendre compte bah, que le film, en définitive, ça a été un bout de notre vie. Avec des hauts, des bas, de la poésie, du spectacle, de tout. Et c'est une vie complètement théâtrale, mais c'est rudement bien filmé, rudement bien sélectionné. Et Émilie a fait un travail de professionnel. Voilà.
Ouais, j'étais avec ma monteuse Karen Benenous, à qui je décerne une médaille du mérite.
Mais et justement, parlons un petit peu du montage. Donc on a compris que... Pauline s'arrache a été un peu tournée à l'arrache, mais comment ça s'est passé au montage? Combien de temps et comment vous êtes parvenu à cette construction finalement? Enfin, quand on voit le film qui semble logique ou naturel, mais enfin, il y a une vraie progression dramatique. Il y a un problème, il y a un dénouement. Comment vous êtes arrivé à ça?
Bah, l'idée, c'était vraiment de faire. On voulait vraiment monter le film comme un film de cinéma, c'est-à-dire avec une trajectoire, des rebondissements et. D'un coup on a eu 100 heures de rush et il fallait faire un film, donc c'est ce que je disais, hein, il faut avoir une trajectoire et savoir ce qu'on veut raconter. Mais la première étape de travail, c'est dérusher les 100 heures et tout regarder et analyser en gros de quoi ça parle, faire des thématiques, et puis au fur et à mesure ça s'écrème, c'était très long quoi.
Et Alors, dans le montage, il y a, enfin moi, il y a des séquences que j'aime beaucoup, qui sont les séquences les plus expérimentales, en fait, très clippées et très enfin, baignées de musique généralement. Mais comment vous avez articulé les archives avec le tournage que vous avez effectué? Et surtout, donc on est dans votre regard, parce que vous filmez et nous, en fait, on voit avec vous. Mais on se dit que ces archives, c'est pas anodin. Vous êtes d'une part allé les chercher, d'autre part, vous les avez montées parfois comme des flashs qu'on pourrait imaginer inconscient. Mais en fait, on a l'impression que vous nous dites quelque chose avec ces archives. Quelque chose qui est peut-être nostalgique ou peut-être. Mais il y a quelque chose qui se passe là, non?
Oui, bien sûr. En fait, c'est aux deux tiers du montage, Fren a retrouvé des archives, il me les a passées, c'est des VHS qui avaient été mis sur des DVD. Et en fait, quand on a vu ça, c'était genre, waouh, le paradis perdu, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, après le film, c'est vrai que c'est un petit peu une archéologie de la vidéo amateur contemporaine, parce que comme toutes les technologies s'accélèrent en fait. Bon, il n'y a pas de Super 8, mais en tout cas, on voit vraiment plein de formats et de supports différents. Et je pense que pour n'importe qui, de voir de la VHS, ça renvoie justement à de la nostalgie, à des périodes de nos vies, de l'enfance. Et là, quand j'ai vu tout ça, c'est-à-dire ces spectacles où les enfants, c'était pour moi, c'était important de les mettre en les heurtant avec le réel d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était un petit peu comme une manière utopique de faire famille, où déjà le spectacle commençait, où on était tous ensemble, où il y avait tous les enfants, comment on faisait famille, et comment après on voit Pauline à 17 ans qui doit se confronter aux attentes normatives d'une société, et le fait qu'elle a été élevée par des parents atypiques. Et toute la question du film tourne aussi autour de la question de qu'est-ce que c'est qu'une famille, et Pauline veut avoir une famille normale. En fait, elle comprend pas, elle veut une famille normale. Et justement, de heurter ça, c'était assez un. Puis c'est le paradis perdu aussi.
Oui, on le sent,
Ouais.
très fort. Votre point de vue, peut-être sur les archives dans le film, et la confrontation des archives avec enfin, ce que Émilie a filmé.
Les archives, c'est tout simplement génial parce que on se rend compte que dans les archives, les enfants étaient déjà en scène. Que moi, de toute façon, depuis que mes enfants étaient tout petits, j'adorais les emmener avec moi faire des spectacles, des shows. Et on a fait tellement de shows devant Émilie, devant toute la famille. Et Émilie a su prendre les bons morceaux pour arriver à monter tout ça. Et je pense que c'est elle aussi là, la grande. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est elle dans sa tête qui a réussi à visionner tout ça avec l'aide de Karine. Et en définitive, la grande artiste, c'est elle. Enfin, moi, c'est mon avis à moi. Voilà.
Alors, une question avant de vous laisser la parole pour vos questions. En fait, une double question. La première, c'est comment on fait au montage pour se dire, là, je suis dans l'impudeur, là, je vais trop loin, là, il faut que je retienne ça parce que ça ne concerne pas le
La
public
censure, ouais.
auquel le film est destiné.
Bah, la question de la censure, en fait, elle s'établit à différents niveaux. Déjà, il y a la première chose, c'est il y a des choses qu'on filme pas. Donc il y a des fois où bah, on arrête la caméra. C'est-à-dire que moi, c'est des personnes qui sont intimes, c'est des personnes que je connais, donc j'ai même pas besoin de leur demander, je sais comment ils réagissent. Et je sais quand arrêter la caméra, donc il y a des choses qu'on ne filme pas. Et ensuite, il y a des choses qu'on filme et que l'on ne monte pas. C'est-à-dire que là, vous avez vu en fait le film qu'il a été possible de voir. C'est-à-dire qu'est-ce qui est acceptable pour les gens, parce que en fait, suivant les cultures, les lieux, les tempéraments, les familles, les valeurs de chacun, il y a des choses qui sont plus ou moins acceptables ou quoi. Et ensuite, donc il y a plein de choses que je n'ai pas montées. Et après, quand j'ai fini le montage, j'ai montré le montage à à ma famille, quoi. Et donc là, j'ai enlevé deux, trois trucs. Voilà.
Et alors, une toute dernière question à vous deux. On peut se dire, dans certaines séquences, on peut se demander dans quelle mesure les personnages de cinéma qui sont à l'écran ne surjouent-ils pas leur propre rôle et leur propre vie?
Ouais, ben, En fait, je pense qu'un des enjeux du film, c'est de montrer toutes les parts de représentation qui sont en jeu, déjà, qu'il y ait une caméra ou pas. Bon, moi, la semaine, par exemple, je suis prof, donc même si j'ai pas une caméra qui me filme, je me mets en scène en tant que prof. Je m'habille comme une prof, je suis debout, mes élèves sont assis, je leur parle comme une prof. Là, je me mets en scène en tant que réalisatrice, il y a un micro, vous êtes là. Enfin, tout est déjà mis en scène, en fait, tout, et on est en représentation. Et ensuite, le fait qu'il y ait une caméra, ça change forcément. Là, les gens, ils voyaient bien qu'il y avait une caméra, c'est pas des caméras cachées. Par exemple, Pauline et Abel qui se disputent, donc moi, des scènes de dispute, j'en ai plein, hein. J'en ai 10, quoi. Mais en fait, à un moment, ils se sentent comme dans un Tarantino, quoi. Ils se donnent, quoi. Ils en font des caisses. Et je pense qu'eux, ils ont un rapport à la caméra qui est beaucoup plus décomplexé parce que c'est une génération qui a tout le temps été filmée, qui se met en scène sur les réseaux sociaux, qui fait des selfies, qui sait comment prendre en charge la représentation. Et pour eux, l'essence de leur être ou de leur intimité ou je sais pas quoi ne réside pas forcément ici. Et on voit justement la différence avec Maud, qui, elle, est d'une autre génération où finalement, quand il y a des caméras cachées, des caméras de surveillance, ça pose problème. Et donc ma mère, elle est mal à l'aise avec la caméra parce que c'est pas du tout le même rapport à ce média-là, quoi, enfin à cet outil. Et je pense que le film, il a été aussi possible parce que aujourd'hui, il y a un rapport à l'intime qui est différent. On parle souvent de télé-réalité. Moi, je connais pas hyper bien la télé-réalité, mais en tout cas, on m'a dit qu'il y avait un espèce de dispositif là de confessionnal qui ressemble à quand. Bon, moi, je savais pas, mais du coup, pour moi, ce qui fait la différence entre ce que j'ai voulu faire et la télé-réalité, c'est la pluralité des points de vue et le fait qu'on ait un regard, enfin, qu'on puisse comprendre les trajectoires, qu'on puisse comprendre l'histoire de chacun, l'histoire de sa naissance, comment il a été aimé ou pas. Et ce qui est différent de la télé-réalité où on va jeter en pâture quelqu'un qui est en situation de fragilité et où on reste juste dans quelque chose de l'ordre du jugement. Alors pour moi, l'enjeu du film, c'est de dépasser ça pour être dans la compréhension et donc dans l'identification, quoi. Et c'est-à-dire que même si c'est une famille atypique, il n'empêche que le film soulève des questions qui sont inhérentes à toutes les familles, qu'elles soient plus traditionnelles ou pas. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que faire famille, c'est quoi ces liens irréductibles auxquels on ne peut pas échapper, comment on assume l'altérité. C'est-à-dire que pour moi la famille, parce que oui l'intimité, la pudeur, gna, mais n'empêche, pour moi l'intime c'est politique, c'est-à-dire que la famille c'est le premier lieu dans lequel on doit vivre les uns avec les autres et on n'a pas le choix en fait, et l'autre il est différent et c'est là où il y a des rapports de domination et c'est là où et ce sont des rapports de domination qui tournent tout le temps. Et c'était pour moi, c'était important le fait de monter le film de manière à ce qu'on ait les points de vue de tout le monde et on se dise pas « Ah ouais, le connard » ou machin et tout. Et ça tourne tout le temps, en fait. On comprend les points de vue de tout le monde et on comprend l'ambivalence des situations, un peu comme dans la vie, qu'en fait, les choses sont pas noires ou blanches, elles sont grises, quoi. Et pourquoi je sais pas, j'en suis...
Non, mais c'est pas mal. C'est une assez bonne manière de vous laisser la parole pour rebondir sur une question ou une autre, peut-être des questions dans la salle. Aucune question dans la salle ? Même pas, mais qu'est devenu Pauline ?
Je pense que c'est pas très important qu'on sache.
Je pense que votre histoire à vous, elle est peut-être pas très importante. Enfin, on ne peut que l'imaginer en regardant le film. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai beaucoup pensé à votre histoire ou à celle de votre frère de la première fournée, on va dire, en me disant, mais ils étaient où pendant toute cette histoire qui est filmée par vos parents à vous. C'est important, mais en fait, en tout cas, je pense qu'il y a plein de gens quand même qui, en regardant le film, ont imaginé l'autre histoire des deux autres frères et sœurs.
Oui, parce que, mais en fait, votre question soulève la question du point de vue, qui est une question fondamentale pour comprendre pour appréhender le film. C'est-à-dire que moi, je suis à demi-sœur, c'est que j'ai presque autant d'écart, enfin pas autant d'écart, mais j'ai 12 ans d'écart avec Pauline, et puis toi, j'ai 13 ans avec toi, c'est ça ? 13 ans d'écart avec Fred. Donc moi, je suis entre les deux, et pendant ce temps-là, moi, j'étais adulte, donc je faisais ma vie, j'avais mon appartement, donc je suis pas... On est relié par les liens du sang, par l'expérience vécue, les liens. Et en même temps, j'ai un pied dehors, c'est-à-dire que j'ai aussi le recul. Ce qui permet que finalement que ce film aussi peut être possible, parce que si moi j'arrive avec ma caméra, une caméra HD et un beau pied, je dis ça parce que ça bouge tout le temps, et que je viens dans votre famille et je dis bon allez foutez-vous sur la gueule, ça c'est obscène en fait, c'est pas possible. Mais là, en fait, le fait que moi je suis dedans, le fait aussi qu'on ait accès à une vérité aussi des situations, et aussi par exemple l'illumination de Pauline là, quand d'un coup il y a ce moment de grâce qui se manifeste, là c'est vraiment c'est de l'ordre de l'épiphanie, c'est le phénomène qui est devant nous. Mais ça, si c'était pas ma sœur et si je la connaissais pas et si ça faisait pas 3 ans que je la filmais, ça, on n'a pas accès à ça quoi. C'est oui, c'est le point de vue, en fait. C'est le point de vue. C'est-à-dire que c'est un point de vue qui est toujours bienveillant et en même temps qui n'est jamais conciliant. C'est-à-dire que pour moi, l'enjeu du film, c'est pas d'être conciliant, mais d'être réconciliant. Puisque c'est pour moi, le but profond du film, c'est un film de résilience. C'est-à-dire comment on peut surmonter tous ces schémas névrotiques dans lesquels on... Bah voilà, que l'on joue en pilote automatique tout le temps. Et comment, à un moment, ben, juste ça stoppe parce qu'il y a dialogue et donc il y a compréhension, en fait. Et parce qu'il y a compréhension, on peut partir en paix. C'est-à-dire, Pauline s'arrache, non pas en claquant la porte, fuck papa, maman, mais elle s'arrache en paix. Parce qu'elle sait d'où elle vient, en fait. Et je pense que pour être en paix, il faut comprendre l'histoire de ses parents, en fait. Il faut comprendre son histoire pour savoir tous ces... Parce que, voilà, ça, c'est une question universelle. C'est-à-dire tous ces héritages que l'on porte, qui ne nous appartiennent pas, ou peut-être qui nous appartiennent, mais dont on ne veut pas. Donc c'est comment, à un moment, je choisis de savoir qui je suis en posant des choses et en gardant d'autres, en activant certaines choses qui nous rendent plus forts et en laissant d'autres. Et voilà, et donc c'est vrai que pour moi c'était important. Bon, c'est un film punk, mais un film punk qui dit fuck au nos futurs. Voilà.
Et est-ce que vous pensez que ça aurait été différent pour Pauline dans la vraie vie sans ce film ?
Alors, si ça aurait été différent ?
Pour Pauline, ouais. Dans la vraie vie sans ce film.
Ah non, mais pour Pauline, et c'est là qu'on voit que c'est du cinéma. C'est que Pauline, pour le moment, elle est toujours dans le truc de mes parents, ils sont pas normaux, c'est des connards et tout quoi. Non mais je veux dire, le film...
On a fait les bonus, et dans les bonus, on s'est aussi tapé ça.
Ouais, il faut que vous achetiez le DVD. en fait le film n'est pas une baguette magique, ou en tout cas, il a des effets, mais c'est tellement vertigineux à la fois de voir un film qui est... Parce que Pauline, c'est ce qu'elle dit en voyant le film, c'est-à-dire que c'est ma vie, mais c'est pas ma vie, parce que tout est reconstruit. C'est-à-dire que l'histoire que je raconte, certes, c'est des choses qui sont prises dans la chair du réel, mais tout est scénarisé, c'est-à-dire que c'est une histoire que moi je raconte, finalement, c'est presque mon histoire, puisque... Parce que, justement, cette histoire de résilience, peut-être que pour moi, elle est importante, et peut-être que Pauline, elle est encore trop jeune aussi pour appréhender ça, quoi. Et ce qui fait que, voilà, c'est un film, mais c'est pas une baguette magique.
Et du coup, est-ce que vous, quand vous regardez ce film-là, ça vous renvoie à votre propre adolescence ? Est-ce que vous y êtes, en fait, dans ce film, à l'image, quelque part ?
À l'image, non, quasiment pas.
Non, mais oui, ouais, non, mais moi, de manière, pas de manière physique, mais de manière...
Non, mais c'est évident que c'est un autoportrait. Parce que c'est ce truc de... qu'à un moment, pour surpasser des choses, on est obligé d'être dans le pardon. C'est quelque chose que moi, j'ai compris maintenant. Mais j'ai pas le même âge que Pauline aussi. Mais et c'est aussi une manière d'utiliser le cinéma. C'est-à-dire que comment je peux utiliser l'outil cinématographique pour... atteindre le réel en le transformant, puisque finalement, Pauline... Alors, il y a des rushs qui ont été coupés au montage, mais où on voit Pauline en train de regarder les rushs et qui, d'un coup, prend conscience, qui hallucine. Ah, mais oui, mais c'est normal que Abel est parti, c'est parce que je l'ai tout fait, quoi. Et qui... Donc, en fait, c'est une manière aussi d'accélérer des processus. Et en même temps, c'est comme si on lance des graines pour que l'autre voit, pour un effet miroir. Mais après... les autres, chacun son chemin, quoi. Tu vois, c'est...
Une autre question, peut-être.
Merci. Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi vous avez filmé plutôt Pauline que vos autres frères et sœurs, Anaïs ou Guillaume, enfin vos demi-frères et sœurs, ou carrément, comme la personne avant, la première fournée.
Bah. Déjà, techniquement, la première fournée, c'est moi. Je n'allais pas me filmer moi-même. J'aurais pu faire Tarnation.
Ouais, mais si j'ai bien compris, vous n'étiez pas fille unique de la première lignée.
Hein vous si, étiez... si, moi, je suis la première fille de ma mère.
Oui, oui, ça, je sais. Oui. Mais vous n'aviez pas d'autres frères et sœurs de...
Si, j'ai un autre frère qui s'appelle Florian.
Ben voilà, c'est ça.
Qui est en Nouvelle-Zélande.
C'est un peu plus difficile, alors.
Ouais, c'est moins pratique.
C'était plus cher le tournage qui a été fait avec 0€. Et, et après, les autres étaient partis. Et moi, je voulais vraiment... en fait, j'avais plein d'autres rushs où on voyait Guillaume, plus Anaïs. Et c'est-à-dire qu'à un moment, on a 1h30, il faut raconter une histoire. Donc, il faut vraiment resserrer et synthétiser. Et moi, j'ai voulu vraiment accentuer, travailler sur cette triade relationnelle entre ces trois personnes qui, pour moi, étaient montées en miroir. C'est-à-dire que ce sont les mêmes. Ce sont des enfants qui ont des blessures d'abandon très profondes et qui, en fait, se nourrissent de ce schéma. Alors, à la fois, ils sont tout le temps dans le conflit, et en même temps, ils sont inséparables. Et en fait, ça, je trouvais que c'était un système relationnel que je voulais explorer, en tout cas, que je voulais montrer dans ce film, quoi. Et aussi, Pauline, elle s'est aussi emparée de la caméra, et puis elle était hyper à l'aise, elle s'en amusait, elle se mettait... Parce qu'à la fois, il y a toutes les panels de représentation, c'est qu'à la fois, elle peut se mettre en scène, se marrer, utiliser la caméra comme pour jouer... Et puis à la fois, il y a aussi des moments où les masques tombent. Et donc, il y a vraiment tous les modes de comment on se met en situation jusqu'à ce que les masques tombent aussi, quoi.
Merci.
Une autre question ? Moi, je vais en poser une, enfin au moins une dernière. Donc, un film réalisé de manière un peu punk, le tournage, montage, production, tout ce qu'on veut. Une sélection à Cannes, grâce à l'acide, 10 000 entrées en salle. Ça te donne des idées pour la suite ?
Là, je suis en train de travailler sur un deuxième film qui sera une fiction, dans lequel j'essaierai d'insérer beaucoup de la vie, quoi. Donc, avec beaucoup de prises documentaires. Et surtout, du coup, j'ai découvert le cinéma par hasard. Mais je me suis éclatée comme une folle avec ma monteuse, quoi. Et notamment, ce que j'aimerais développer, c'est la porosité entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et tout ce que toi, tu appelles la partie un peu expérimentale, c'est vraiment ce qui m'a le plus intéressée. Donc là, je travaille sur l'histoire d'une vétérinaire qui va péter un câble, enfin qui va faire un burn-out. Et donc, ça va être l'histoire d'une déconstruction et d'une reconstruction.
Très bien, très bien. Ouais. Eh bien, merci à vous. Si vous n'avez pas d'autres questions.
Ah oui, j'ai oublié une dernière chose. Aïda, joyeux anniversaire.
Merci de votre présence et
merci beaucoup. Ouais.
Et bonne soirée. Au revoir.